Bonsoir. Allô? Ok. Bon, on tient là. Bien. Alors, on a trouvé la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin. Et finalement, Yosef dit, moi je respecte Elohim, c'était un nom divin qui était connu, quoi. Il n'est pas censé, lui il pensait Elohim, mais ça pouvait s'utiliser aussi chez les autres, puisque on a vu que Potiphar, il lui dit, puis je vois que Elohim est avec toi. Parce que Yosef, il répétait tout le temps, dans tout ce qu'il faisait, il disait toujours que Elohim l'aide, etc. En tout cas, il leur dit, contrairement à ce qu'ils avaient proposé et tout, il leur dit non, pas du tout, vous allez vous rentrer chez vous et je garde le voleur, je garde Binyamin auprès de moi. Il est près de moi, ça veut dire je le garde en prison, mais vous rentrez chez vous. Alors, a priori, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, Yosef? A priori, il veut s'assurer que, bien sûr, les frères étaient jaloux de Yosef, mais, je crois que je l'avais dit la semaine d'avant, la haine qu'ils avaient à son égard, elle ne venait pas du seul fait que Yaakov le traitait différemment. Parce qu'ils avaient bien compris que Yaakov préférait Rachel, et que Yosef étant le fils de Rachel, et rappelait donc à Yaakov Rachel en permanence, c'est normal que... Ça, ils ont compris. Ça, c'était, pour eux, ce n'était pas un problème. Le problème, c'est marqué qu'il l'a préféré Mikol de tous les frères. Or, dans les frères, il y avait Binyamin aussi. Donc si c'était seulement parce que c'était un descendant de Rachel, alors il aurait dû privilégier Binyamin et Yosef. D'accord. Donc comme il va privilégier seulement Yosef, c'est donc pas seulement à cause du fait que, mais qu'il lui donne une valeur au-dessus de la leur, qui n'est pas motivée par le fait qu'il est le fils de Rachel. D'accord. S'il n'y avait que ça, il aurait dû donner à Binyamin aussi un statut à part. Donc, à la limite, la question c'était, est-ce que quand ils l'ont... Yosef, il ne sait pas exactement ce qui se passe. Il ne sait pas si, en fait, ce qu'ils lui ont fait, ils le lui ont fait parce qu'il était le fils de Rachel. Et donc, il y a une haine, si vous voulez, entre les fils de Léa et les fils de... Enfin, les fils de Léa pour le fils de Rachel. Ou si c'est autre chose, c'est...
Il y a aussi un comportement...
Oui, mais il y avait tout son comportement, on ne va pas refaire l'histoire, mais bien sûr, il y avait son comportement, mais seulement eux, de leur point de vue, considéraient, ils voulaient... C'est le fait qu'il ait donné un statut tout à fait à part à Yosef, et pas seulement en tant que fils de Rachel, mais là, il veut vérifier qu'ils vont se mouiller pour un fils de Rachel aussi. Donc il garde Binyamin et il veut savoir est-ce que les fils de Léa vont simplement dire ben finalement c'est un fils de Rachel. En plus, Rachel, elle avait piqué les pénates de son père. Ouais, c'était une voleuse, les enfants c'est des voleurs. Et donc il s'est dit, on va voir ce qu'ils vont faire si je garde Binyamin. Alors bon, la réponse, elle vient tout de suite. Le Passouk nous dit, à ce moment-là, « Vayigash elav Yehuda ». Yehuda s'approche de lui. Il faut bien voir la situation. C'est le vice-roi d'Égypte. Et c'est les gens qui sont accusés d'être des espions. en plus leur frère a volé. Ça, maintenant, alors, maintenant Yehuda, il prend le risque. Voilà, là, on voit que il s'implique pour Binyamin. Rashi ramène qu'il y a plusieurs façons d'interpréter le terme de Vayigash, s'approcher de. Bon, il y a aussi s'approcher bon, pour plaider la cause, en fait, ou bien pour apaiser quelqu'un, ou bien pour livrer bataille. Il va se battre. Et Rashi ramène que Yehuda, il voulait arriver à ses fins, c'est-à-dire la libération de Binyamin. Et il allait utiliser tous les moyens en sa possession, dont il disposait. Il va faire un plaidoyer. Il va essayer d'apaiser pour. Il lui dit que ta colère n'éclate pas. Il dit je sais bien que tu es l'égal de Paro, un petit peu de flatterie au passant. Et à la bataille, si tu m'exaspères, je te tuerai, toi et ton maître. Rien d'autre. Donc, bien sûr, il commence par dire quelque chose de gentil, etc. Le Ramban, alors bon, il faut juste qu'on relise un tout petit peu, puisque... Vaigash elav Yehuda, vayomer bi Adoni, yedaber na avdecha davar beozne Adoni, Il lui dit, voilà, s'il te plaît, permets-moi de parler un peu. Je vais te dire quelque chose à l'oreille, c'est-à-dire quelque chose de... Je ne vais pas que tout le monde entende ce que je dis, etc. Ne te mets pas en colère contre moi. Je te respecte, je m'approche de toi, mais je te respecte à l'égal de Paro. Et il commence à lui raconter, tu nous avais demandé, est-ce que vous avez un père, est-ce que vous avez un frère, on t'a raconté notre histoire, on a un père, un vieux père, et il y a aussi un jeune fils, et il y a un des frères qui est mort. Et donc ce fils-là, ce Binyamin-là, il est resté seul, enfant de sa mère, auprès de son père. Et maintenant son père, il l'aime. Bon, il a concentré tout son amour de Rachel et Yosef. Maintenant, il est sur Binyamin. Maintenant, tu nous as dit que tu voulais le voir. On t'a dit, mais c'est presque pas possible parce que son père, il supporte pas de se séparer de lui, et surtout s'il arrivait quelque chose. Et tu nous as dit que si nous n'amenait pas Binyam, notre petit frère, tu ne le recevrais pas, et donc on n'aurait pas la possibilité d'acheter à manger. Alors, quand on a raconté tout ça à notre père, donc toute l'histoire, il lui raconte toute l'histoire que vous connaissez. Alors le Ramban, il dit... Je ne comprends pas pourquoi il tient un si long discours à Yosef, il fait tout l'historique. Alors, en fait, il y a des réponses. Rashi aussi il a donné une réponse à cela. Pourquoi est-ce qu'il parle tellement longtemps ? Et en fait, Yehuda parle à Yosef et il lui dit, mais en fait, tu fais comme Paro. Tu promets, tu tiens pas ta parole. Tu nous as dit que tu voulais poser le regard sur Binyamin. C'est ça que tu appelles poser le regard? Maintenant, tu le mets en prison? Rachid dit que tout le discours, c'est cette histoire-là, ce point-là. Tu tiens pas ta parole, tu es comme Paro. Mais le Ramban, il dit non. En fait, Yehuda, pour Ramban, il essaye d'obtenir la pitié de Yosef. Comme il avait dit qu'il craignait Dieu, il pense que... Donc, le discours, c'est « Tu as tellement exagéré que tu voulais absolument le voir, cet enfant, on t'a pour entendu que ça ne marchait pas, que ce n'était pas possible, que son père ne pouvait pas le supporter, etc. Et maintenant, tu veux le garder comme esclave au moyen d'une ruse, parce que nous, on ne croit pas qu'il est volé. C'est une ruse. Pourquoi tu nous as posé toutes ces questions ? Est-ce qu'on voulait épouser ta fille ? Tu veux savoir qui on était ? Honnêtement, on voulait épouser ta fille, tu veux savoir qui on était ? Donc, épargne notre père, d'après. Et prends-moi comme esclave, dit Yehuda. Je suis plus fort, plus grand, tu vas y gagner. Et donc ici, les arguments sentimentaux, puis ensuite il propose un deal. Enfin, tu vas y gagner, qu'est-ce que tu vas avoir au lieu d'un esclave chétif, tu vas avoir un costaud comme moi. Tu as tout à gagner, je prends sa place. Ne te mets pas en colère, je te respecte, mais... Les Chachamim disent, les Midrashim, que c'est un combat furieux entre deux rois. Ils sont tous les deux rois. Yehuda, c'est un roi. Et Yosef aussi, c'est un roi d'après son rêve. Et en fait, ils sont en fureur parce que, et ils savent très bien que si ça continue, on va devoir tuer. Quoi. Tuer ou être tué, ça va pas marcher. Yehuda, il est comparé à un lion. L'emblème de la tribu de Yehuda, c'est un lion. L'emblème de la tribu de Yosef, c'est un taureau. Donc c'est un combat entre un taureau et un lion. En fait, quand Yehuda dit, tu nous avais dit que tu voulais poser ton regard sur lui, il n'avait jamais dit ça à Yosef. Il n'a pas dit ça. Certains veulent dire que c'est Yehuda qui dit il faut poser un regard nouveau sur lui, c'est-à-dire il faudrait le rejuger. Pas simplement on a trouvé une coupe, là il faut quand même aller regarder exactement ce qu'il en est. C'est pas possible. Et il n'y a pas de raison. C'est un voleur. La halakha, quand quelqu'un vole, il faut qu'il répare. On est prêt à payer. On va payer. Il va payer. Il va payer. Donc pourquoi tu le gardes comme esclave ? Le vendre ou l'acheter comme esclave, c'est quelque chose qu'on fait quand quelqu'un ne peut pas payer. Lui, il peut payer. Donc pourquoi tu... C'est tout à fait injuste ce que tu fais là. En plus, il va lui expliquer qu'il avait garanti le... Yehuda dit, moi je l'ai garanti, donc prends-moi comme esclave à la place de mon frère. Si déjà tu ne tiens pas ta parole, etc. Alors il y a, c'est très, je pense que vous le connaissez, il y a un Midrash Tanhuma en fait. Qui dit que en fait, ils ont... Il y a un fameux dialogue, je le rapporte un peu. Je vous donne ce dialogue, je vous le donne là. Si... Quand Yosef a entendu ce que lui disait Yehuda quant à la responsabilité pour Benjamin, il lui a dit, mais alors pourquoi tu n'as pas assumé la responsabilité de ton autre frère que tu as vendu pour 20 pièces d'argent? Tu te sens responsable, pourquoi tu n'es pas senti responsable de Yosef, de ton frère? Et tu as tenu aucun compte du chagrin causé à ton père en disant qu'une bête féroce l'avait dévoré. Pourtant, il n'avait commis aucun mal, tandis que Benjamin a volé. Va dire à ton père, la corde a suivi le seau. C'est-à-dire, la corde suivi le seau, c'est Rachel, c'est une voleuse, et le fils a suivi sa mère. À ce moment-là, ils ont pris, les Yehuda et les frères ont pris une attitude menaçante, et Yosef a vu qu'ils se préparaient à attaquer les officiers et les soldats de la garde. Mais finalement, Yehuda a maîtrisé sa colère, il a dit à Yosef, qu'est-ce qu'on va dire à notre père quand il verra que notre jeune frère n'est pas avec nous? Il en mourra de chagrin. Alors Yosef a dit, dis-lui que la corde a suivi le seau. Alors Yehuda lui dit, t'es un roi, pourquoi tu parles de la sorte, nous conseillant de dire un mensonge? Yosef dit, est-ce que c'est un plus grand mensonge que celui que vous avez raconté à votre frère en disant qu'une bête sauvage avait dévoré votre frère, à votre père, pardon? Yehuda dit, je sens le feu de Shrem brûler en moi. C'est-à-dire, quand Lévi, Shimon et Lévi ont mis à sac la ville de Shrem, donc on va faire la même chose avec l'Égypte. Alors Yosef lui a dit, c'est le même feu que celui par lequel tu voulais brûler Tamar, ta bru, quand tu étais là condamnée à mort parce qu'elle était, elle était enceinte. Vous vous souvenez, elle était... Mais tu l'as jamais allumé, ce feu, finalement. Donc tu causes, mais... Alors, moi et mes frères sommes capables de transformer toute l'Égypte en un bain de sang. Alors, Yosef, il dit, c'est vrai, c'est votre métier. N'avez-vous pas jadis trempé la robe de votre frère dans un bain de sang? À ce moment-là, Yehuda et ses frères, ils vont exploser. Alors, Yosef, il comprend que, voilà, la bagarre va commencer. Il voulait éviter ça. Il a considéré que la preuve du dévouement des frères pour sauver Benjamin était apportée. Et maintenant, c'est l'heure de la réconciliation. Le pasouk dit, Velo yachol Yosef leitapek lechol hanitzavim alav. Yosef n'a pas pu se contenir. Devant tous ceux qui se tenaient là, il a fait sortir tout le monde. Et alors quand plus aucun Égyptien n'était dans la maison, il s'est dévoilé à ses frères. Alors, j'ai vu que le Cheikh Chochma dit une chose très intéressante. Il dit, sur Lo Yuchal Yosef Leitapek Lechol HaNitzavim, que Yosef n'a pas pu se retenir. Alors, ça veut dire qu'il aurait voulu se retenir. Il n'a pas pu, mais il voulait se retenir. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il voulait en se retenant? Il voulait que Yaakov descende et que lui aussi se prosterne.
Avant que les frères aient compris qu'il était Yosef.
Il n'aurait pas dû se dévoiler. Parce qu'il y avait le deuxième rêve dans lequel le soleil aussi. Pourquoi il a fait sortir tout le monde, dit le Meshech Chochma, c'est parce qu'il ne voulait pas que les gens aient l'impression qu'il a été extrêmement cruel. Mais bon, il y avait tout le monde, là, il n'y arrivait pas. J'ai entendu le Chiddush Harim, c'est le premier rebbes de guerre, il a dit qu'en réalité, Yosef, il voulait se contenir, il ne voulait pas se dévoiler. Et il voulait mettre tout le monde en prison. Et obliger ainsi Yaakov à descendre parce que tout le monde était en prison. Et donc, les frères, à ce moment-là, ils auraient payé, ils auraient souffert. Mais maintenant qu'il n'a pas pu se retenir, les frères n'ont pas suffisamment souffert, et c'est pour ça que le galout est tellement long. Pourquoi notre exil est tellement long? Parce que ils n'ont pas suffisamment souffert. Eux, ils auraient dû prendre plus sur eux, mais c'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est que Yosef ne les a pas laissés prendre plus sur eux, puisqu'il a éclaté. Donc le projet de Yosef, c'était de ne pas se dévoiler. Il n'a pas pu, tenir. Cette idée que le galout a à voir avec cette histoire, c'est ce qu'on voit dans le fameux Eleeskera, qu'on dit à Kippour ou à Tisha B'Av, ce fameux poème dans lequel on dit que Adrien, c'est un poème qui met en scène tous les Chachamim assassinés par l'empereur Adrien. Tous ceux qui ont vécu à l'époque romaine. On fait comme s'ils avaient vécu tous ensemble. Ils n'ont pas vécu tous ensemble, il y avait une génération. Mais pour les besoins du poème, en quelque sorte, de ce récit-là, et ça commence par Adrien qui demande au Chachamim, dites-moi, quand on vend son frère pour de l'argent, vendre un homme qui ne mérite pas d'être vendu, c'est quoi la sanction? Ils ont dû dire que c'est la mort. D'accord? C'est ce qui, dans les 10 commandements, quand on dit tu ne voleras pas, c'est pas le vol. Parce que tout ce qui est dans la colonne de droite, la deuxième colonne, ouais, c'est tous des interdits qui, s'ils sont transgressés, sont sanctionnés par une peine de mort. Or, sur le vol, il n'y a pas de peine de mort. Par contre, le kidnapping, ou le vol d'un être humain, on le prend et on le vend, par exemple, ou le seul fait que tu le prives de liberté, tu le kidnappes, ça c'est passible de mort. Donc le vol dont on parle dans les 10 commandements, c'est le vol d'un être humain et pas du tout le vol d'un objet. Et ça, c'est effectivement passible de mort. C'est ce qu'il leur a demandé. Alors ils ont dû dire. Alors il a dit, ok, s'ils étaient là, les frères qui ont fait ça, je les aurais jugés. Mais maintenant qu'ils ne sont pas là, ben, vous les représentez, vous êtes les meilleurs représentants, donc c'est vous qui allez payer pour eux. Et donc on présente toute la souffrance des grands maîtres, y compris Rabbi Akiva, qui en a peigné son corps avec un peigne de fer, etc., tous les gens qui ont été tués, etc., comme les suites de la vente de Yosef. Donc là aussi, de nouveau, cette histoire, si la vente de Yosef, si eux, ils avaient payé pour la vente de Yosef, plus qu'ils ne l'ont fait, bon, ben, ils ont un peu payé un peu, mais s'ils avaient vraiment payé, ils avaient vraiment été tous en tôle, et que Yaakov soit descendu, non pas comme le père du roi, mais comme quelqu'un qui vient parce que ses fils sont en prison. Donc toutes ces souffrances-là, elles nous auraient épargné une partie de la souffrance du galout dans lequel nous sommes, qui est le galout de Rome, donc... commencer par c'est les Romains qui ont détruit le Beth-Amikdash, qui nous ont exilés, et donc nous on est dans la suite de ce galout Edom, c'est Rome. Donc là on retrouve c'est toujours cette idée qu'en fait le galout le plus long, mais celui qui est le galout de la fin, finalement, c'est un galout qui a été provoqué non pas seulement par la mauvaise conduite des Bnei Israël à l'époque, où ils ont été exilés, c'est sûr que la conduite était très très mauvaise, mais c'était déjà, si vous voulez, le ver était déjà dans le fruit depuis ce moment-là, depuis cette histoire. Un peu dans la même veine, on n'est pas encore arrivé là, mais j'ai entendu, mais je ne sais pas de qui, c'est un Rebbe Hasidic aussi, qui a dit que, maintenant j'ai entendu, enfin, la vérité c'est que, entre temps j'ai entendu que c'était Ramoshe Feinstein qui avait dit ça, mais peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dit. On dit qu'on voit nulle part dans le texte que Yosef il ait dit à ses frères, je vous pardonne. On ne voit pas non plus qu'il lui ait vraiment demandé pardon. Alors certains disent que c'est ça. Parce qu'il ne leur a pas pardonné, alors c'est la lutte, parce qu'il n'a pas mis un terme, donc on est encore dans l'affaire, en fait. D'une certaine manière, le pardon n'a pas été donné. Mais peut-être parce qu'il n'a pas été donné, peut-être parce qu'il n'a pas été demandé. On dit ça du philosophe Yankelevitch, qui disait, j'ai jamais pardonné aux Allemands, parce qu'ils m'ont jamais demandé pardon. C'est tout. Ça se discute, hein, toute cette histoire. Est-ce qu'on ne doit pas pardonner, même si l'autre n'a rien demandé? C'est une chose qu'on dit sur Rabbi Israël Salanter, qu'un jour, il avait donné l'hospitalité à quelqu'un, et le matin, quand il s'est levé, il a vu que toute l'argenterie avait disparu. Alors, le type, il venait de partir, donc Rabbi Israël, il lui a couru après. Et l'autre s'imaginait qu'il allait lui casser la figure, ou qu'il allait... Il l'a rattrapé, il a dit, je te pardonne. Alors, on dit que la raison pour laquelle Rabbi Israël faisait ça, hein, c'est parce que il y a un ignan de ne pas être celui à cause duquel quelqu'un est puni. Quelque part, c'est comme si on était l'accusateur, en fait. Je ne veux pas être l'accusateur. Je te pardonne, tant pis. Alors, bon, ça se discute, hein, mais je vous dis, en fait, ce qu'on met en face de cette histoire du pardon, il y a le pardon. Là-bas, ce n'était pas des choses aussi graves. C'est jamais que du vol, c'est de l'argent, mais chez Yosef, c'était pas de l'argent, il en est presque mort. Je veux dire, ils l'ont vendu comme esclave. C'est comme beaucoup à tirer les ficelles pour que ça tourne bien. Mais eux, de leur point de vue, ils ont vendu quelqu'un comme esclave. Mais d'un autre côté, vous verrez, quand on a déjà un petit peu vu, que les frères n'ont jamais regretté ce qu'ils ont fait. Quand ils disent que voilà ce qui nous arrive, c'est pour nous punir de la façon dont on s'est conduit par rapport à Yosef, ils disent seulement c'est qu'on n'a pas écouté ses supplications. Le jugement, il était net. Ils n'ont jamais considéré qu'ils s'étaient trompés dans le jugement, mais finalement c'était notre frère et il nous a supplié de lui faire grâce, etc. On aurait dû écouter. On aurait dû écouter ses pleurs, etc. Ce qui en soi n'est pas tellement évident non plus, pour compléter le tableau, c'est que, je ne suis pas sûr. À quel titre est-ce qu'on l'a condamné? Ils l'ont condamné en tant que Mored Bemalchut. Il y a une halakha. Si quelqu'un... C'est comme ça, la royauté en Israël, c'est quelque chose d'intéressant. Le roi, disons, David, même Shaoul avant... Il a été oint par Shmuel, par le prophète Shmuel, sous l'ordre d'Hachem. Alors, il est roi. Mais David Ameler, dans sa vie, il y a eu un moment où son fils, Absalom, le fameux Absalom, s'est révolté contre lui. Et quand lui s'est révolté, Absalom, contre David, la majorité du peuple a suivi Absalom. Et à ce moment-là, David n'était plus roi. Parce que t'as beau avoir été oint par Shmuel sur l'ordre d'Hachem, si les Bnei Israël ne veulent plus de toi comme roi, ils en ont un autre qui n'est plus roi. Et quand Avshalom est mort, les Bnei Israël sont revenus vers David. David est redevenu roi. Donc, si vous voulez, dans la carrière de David, il y a, dans son CV, si on voulait, il y a une ligne un peu étrange. Alors, le problème, c'est celui qui se révolte contre le roi, tant qu'il est seul ou minoritaire, alors il est révolté contre le roi. S'il devient majoritaire, c'est lui qui devient roi. Mais entre-temps, donc, au début, on peut le tuer, enfin, on peut le juger, le roi, et il est passible de mort. Or, c'est ce qui s'est passé. Ils ont considéré que le roi, c'était Yehuda, que lui, avec ses rêves, etc., il voulait la place de Yehuda, et ils ont décidé qu'il fallait ils l'ont condamné. Mais ensuite, ce que j'ai pas très bien, enfin, ce que je comprends très bien, c'est, est-ce que, normalement, quand quelqu'un est condamné, on peut pas commuer la peine. Quelqu'un est condamné à une peine de mort, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué « Lotikru kofer », vous n'accepterez pas d'argent. Quelqu'un, je vous donne un exemple. Supposez que quelqu'un de très riche, il fait quelque chose et il est condamné à mort. Alors il pourrait aller vers les responsables, leur dire, écoutez, ok, vous allez me tuer. Mais si vous me tuez, tout mon argent ira à mes enfants ou à mes héritiers. C'est pas l'enfant, mais c'est vous qui le cherchez. Par contre, si vous prenez tout mon argent, vous allez pouvoir, construire des synagogues, des mikvaot, des baptêmes, vous allez renflouer la caisse de la communauté, etc. Prenez tout mon argent et laissez-moi vivre. Qu'est-ce que vous avez à gagner à ce que... Je vais vivre, je serai un pauvre et je vivrai. Alors, la halakha est qu'on n'a pas le droit d'accepter. Dans la Torah, c'est marqué, tu n'as pas le droit d'accepter. Pourtant, objectivement, on pourrait dire, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a gagné? Le type, on l'a à l'œil, quoi, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Bon. C'est l'intérêt de tout le monde de partager. On n'a pas le droit.
On n'avait pas vu dans une paracha précédente que le fait de ne plus exister, de perdre sa richesse, c'est un peu équivalent de mourir d'une certaine manière.
Oui, c'est ce que Yaakov a dit à quand Esav, quand Yaakov s'est enfui, il a ordonné à son fils de rattraper Yaakov et de le tuer. Quand il est arrivé chez Yaakov, il l'a poursuivi, il est arrivé, je vous ai raconté, Yaakov lui a demandé qu'est-ce que tu fais là, il a dit je suis venu te tuer. Alors Yaakov, qui était son maître par ailleurs, il lui a dit bon, tu n'es pas obligé de me tuer avec un couteau, tu peux me tuer économiquement. Si on est quelqu'un est très 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 pauvre, il est économiquement mort, il ne joue aucun rôle économique. La Gemara, elle nous raconte que le Tana, Hillel, le fameux Hillel, lui, il était vraiment pauvre de chez les pauvres, donc il était mort économiquement. Mais personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aussi vivants que Hillel. Encore aujourd'hui, c'est Hillel, ses enseignements, etc., sont archivivants. Et on ne voit pas que quand il est retourné chez son père, on ne voit pas qu'Esav lui ait fait un reproche, tu aurais dû le tuer avec un couteau au lieu de le tuer économiquement. Non, c'est bon, c'est tué économiquement. Donc il y a plusieurs façons de mourir.
C'était pas indigne en plus.
Non, mais lui, c'était pas indigne, mais. Oui, alors c'est ça. Donc là-bas, c'est pas indigne, mais là, je croyais que vous faisiez allusion à autre chose. Il y a un cas de figure où on transforme une sentence de mort en argent. Mais c'est parce que c'est dit dans le cas où si le taureau de quelqu'un tue un homme, alors c'est marqué, si ce taureau était un taureau violent, qui avait déjà encorné, etc., trois fois, s'il tue un homme, alors on va tuer la bête, C'est marqué Vegam Baalav Yumat. Et son propriétaire lui aussi il mourra. Vous savez, le propriétaire condamne à mort. Mais immédiatement le pasouk dit Im Kofer Yushatalav. Là-bas on dit tout de suite on va lui imposer une amende qui correspondra, ou bien, c'est une marloquette, est-ce que ça correspond à sa vie, à lui, ou est-ce que ça correspond à la vie que le taureau a prise En tout cas, là, c'est le seul cas. Mais c'est pas une vraie peine de mort. C'est pas, il a pas, c'est lui, il n'avait rien fait. Peut-être on peut dire qu'il était un peu négligent par rapport à son taureau, mais encore que... Dans ce cas-là, effectivement. Mais c'est le seul cas de figure. Partout ailleurs, on n'a jamais le droit de transformer. Or, Yehuda, c'était un jugement, il a transformé. Il a commué la peine de mort en une peine d'exil. D'accord ? Exil en tant qu'esclave même. Ok, alors qui est-ce qui dit qu'il avait le droit ? Alors, on peut penser que comme c'était le roi, peut-être le roi lui-même, il aurait le droit de commuer la peine. Je ne sais pas. D'autant que quand les choses vont aller mal, quand les frères vont voir combien Yaakov souffre, ils vont dire à Yehuda, tu n'es plus roi. Pourquoi ? Parce que tu aurais dû nous dire de ramener Yosef à son père. Quand tu nous as dit, au lieu de le tuer, on va le vendre, on a été d'accord. Si à ce moment-là, tu nous avais dit, au lieu de le tuer, on lui a donné une bonne leçon, il a eu peur, etc., maintenant, il a pleuré, etc., et maintenant, on le ramène chez son père, on t'aurait suivi aussi. Donc la raison, maintenant, de toute la souffrance de notre père, qui est insupportable, ça fait 20 ans, pendant 22 ans, il va souffrir, ils vont le voir, et ils disent à Yehuda, c'est ta faute. Donc, comme je vous dis, c'est ça intéressant parce que la royauté, elle est vraiment de droit divin, si on veut, mais le peuple a le dernier mot. Si le peuple se révolte, il n'est plus roi. Ça, c'est les grandes questions, l'histoire de... Est-ce qu'il aurait dû les faire? Il voulait. Parce que quand la Torah dit qu'il ne pouvait pas se contenir, donc on entend qu'il aurait voulu se contenir, parce que sinon tu as besoin de dire qu'il ne voulait pas se contenir. S'il voulait, un peu ce que je vous ai lu là du Rav Amouk, c'est lui il le lit comme s'il a bien réfléchi et c'est l'heure de réconciliation. Donc c'est pas, mais ça ne va pas bien dans les mots. L'Oyuchalitapek, il n'a pas pu se contenir. Donc c'est pas l'heure de la réconciliation.
C'était la corde sensible.
On a l'impression que, oui, il craque.
Mais il prenait un risque en plus, sans tout seul.
Oui, pas... alors bon, vérité, quand on a dit tout le monde est sorti, mais Menaché, il est resté. Son fils est resté, qui était son traducteur, etc., mais qui était, c'était aussi des... C'est marqué dans la Gemara que... Non, c'est un Midrash. Il y a un Midrash qui dit que quand Yosef a dit « Je veux que vous, rameniez Binyamin et entre-temps je vais garder Shimon », alors, il a eu peur qu'à ce moment-là, Shimon et Lévi, les deux assassins de Shrem là-bas, ils allaient éventuellement mettre l'Égypte à feu à sang et pas laisser. C'est marqué que Menaché, il était à côté de Yosef, et quand il a dit Shimon restera ici, il lui a tapé, il a posé sa main sur Shimon et il l'a bloqué. Alors c'est marqué que Shimon, il a dit au frère, ça, c'est une main de chez nous. Alors, il a tapé tellement fort quand il a tapé sur l'épaule pour le bloquer. C'est une main de chez nous, ça. Bon, il n'a pas été plus loin, mais c'était vrai, c'est une main de chez eux. C'était Menaché, le fils de Yosef. Donc, c'était tous les deux Enfin, ils étaient tous très très forts. Jacob aussi était très fort. On a toujours l'impression qu'il est très fluet et tout, mais c'est marqué que le problème qu'il avait, Jacob, quand il rencontrait Esaü, c'est qu'il a autant peur de tuer que d'être tué. Donc, on ne sait pas qui va gagner, parce qu'ils sont des forces égales. Ce n'est pas du tout l'image. Esaü, c'est le rugbyman, et l'autre, il est joueur de flûte. Quoi. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et c'est pas vrai. Alors, ce que je vous ai dit là au nom de ce fameux rebelle, lui, ici, lui, ce que je dis là, c'est le Jeff Horma. Jeff Horma, c'est aussi l'auteur du Hors sa mère. C'était un Rav Meir Simcha, il était Rav à Dvinsk, avant la guerre. Il y avait deux rabbinim à Dvinsk, il y avait lui, il y avait le Rogatchover. Le Rogatchover, c'est celui dont on disait que. Il est toujours représenté avec plein de cheveux parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas, rester sans kippa le temps qu'on lui coupe les cheveux. Donc, c'est lui qui disait que moi, Tisha B'Av, je l'ai normalement parce que je ne peux pas. Je peux pas me contenter de lire ce qu'on permet, etc. Bon, c'était quelqu'un qui savait tout. On disait, comme blague, on disait qu'il n'avait aucune mémoire, mais tout ce que tu lui demandes, il vient de le répéter. Alors, ils étaient tous les deux rabbins. Ragachava, il était le rabbin des Chassidim, là-bas. Et lui, le meilleur Simcha, il était le rabbin des Lituaniens, enfin des Litvaks, des Yeshivis. Et chacun, ils étaient dans la grande choule, là-bas. Et chacun, officiellement, ils étudiaient avec le shamash, chacun avec son aide. En fait, ils parlaient suffisamment fort pour entendre l'un l'autre ce que disait. Alors, ils parlaient par-dessus la tête de. Mais ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Et le Rogatchover, qui était toujours quelqu'un de très critique, Rabbi Simcha, il est mort avant le Rogatchover. Et le Rogatchover, il marchait derrière le cercueil de Meir Simcha. Il pleurait. Alors il y a un de ses élèves qui lui a dit, mais tu as toujours dit qu'il ne savait pas l'ernen, qu'il ne valait rien, etc. Il ne savait pas étudier et tout. Voyons, tu pleures comme ça. Il commençait juste à savoir. Non, ce Meshech Chokhmah, c'est un livre extraordinaire. C'est le Chidushim énorme. Donc on étudie les Gmarot de Kochim, etc. Incroyable. Un problème de Brice qu'il a dit, c'est fabuleux. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, il avait une seule fille et il l'a perdue. Ces gens-là, aujourd'hui tout le monde, il n'y avait personne qui venait étudier avec lui. Aucune chance. J'aurais ouvert une yeshiva, il n'y avait personne. Personne ne venait étudier avec lui. On ne sait pas pourquoi. Il y a Moshe Feinstein, il y avait toute l'Amérique qui était sur sa tête. Et la Yeshiva, il y avait moins que. Bon, peut-être que vous êtes là, encore deux ou trois personnes, pas plus. On s'attendrait que tout le monde vienne écouter. Rien du tout, pas du tout. Petit groupe de gens. On ne sait pas qui on a. Alors ici, il le dit, la volonté de Yosef, c'était effectivement de se contenir et d'amener de cette manière-là Yaakov. Achaya savour chez Loyered. Mais alors lui, il l'explique un petit peu autrement. Il dit qu'il a pensé que Yaakov ne descendrait pas. Pourquoi ? Parce qu'en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas de Ruach HaKodesh. C'est juste que tant que Yosef ne s'était pas manifesté, il avait quand même de toute manière pas de présence divine, donc il n'y avait pas de, vraiment de Ruach HaKodesh à cause de la tristesse. Mais si il fait savoir à Yaakov qu'il est roi, il a les autres sont en tôle et qu'il faut qu'il descende, Yaakov va retrouver, puisque Yosef est vivant, il va retrouver son Ruach HaKodesh, il ne voudra pas sortir de l'Eretz Israël pour ne pas perdre, donc il ne viendra pas. Voilà. Donc ils se sont opposés, ils se sont toute cette histoire des de, quand il dit on va mettre l'Égypte à feu et à sang. Oui, vous êtes teinturier, ça fait longtemps. Vous avez, je sais très bien que vous avez teint la robe de donc la fameuse tunique trempée dans le sang et tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas parlé comme ça, mais j'ai l'impression que le Midrash, il fait comme s'il dit ce qui se passe dans la tête de chacun. Ce qu'il pense. C'est un peu comme des guerriers zen qui s'observent. D'accord? Ils s'observent, ils ne bougent pas. Au bout d'un moment, il y en a un qui a perdu. Parce qu'on a vu qu'il... Voilà, il n'était pas aussi serein que l'autre. Il n'était plus aussi serein. Donc, il n'avait pas besoin de se mesurer avec une épée, etc. C'est un peu la même chose. Ils sont là en face de l'autre. Il lui a probablement parlé, mais il a parlé quand même comme on parle à un roi. Il ne pouvait pas... C'est impensable qu'il puisse lui parler et que l'autre ne réagisse pas. Mais peut-être simplement, c'est ce que chacun a pensé. Ils faisaient leur examen de conscience, quoi. Quelque part, Yehuda, il fait son examen de conscience dans toute affaire. Tu vas me dire ça, comme si, tu vas me dire comme ça, je sais bien, tu peux nous dire, oui, toute cette histoire, vous êtes des teinturiers parce que vous avez dansé, tout ça dans la tête de Yehuda. Vous avez dit, on va mettre un feu à sang, et le sang, oui. Tout ça, ça passe dans sa tête. Alors, dans le détail, on nous donne effectivement comment ça s'est passé, tous les états d'âme, ce que chacun s'est dit, etc. Alors ensuite, Yosef, quand il s'est dévoilé, vous allez remonter chez mon père et vous allez lui dire que je suis vivant et tout. Et il lui a envoyé des agalotes, il lui a envoyé des chariots. Pourquoi il a envoyé des agalotes? Il a envoyé des agalotes parce que il a voulu faire comprendre à son père que c'était vraiment lui, Yosef. C'est pas quelqu'un, un imposteur qui a réussi à tromper ses frères, ou etc. Ou qui a obligé les frères à dire ça à leur père et tout. Et alors, le sujet qu'il était en train d'étudier avec son père au moment où son père l'a envoyé voir ce qu'il en était de ses frères, c'était la paracha de Egla Arufa. Alors, Egla et Agalot, c'est le pluriel de Agala, c'est le même mot. Il a envoyé des chariots parce que le mot, pour dire chariot, c'est le même mot que pour Agala. Donc il a donné à comprendre à son père, on était dans la paracha de Egla Arufa. Alors maintenant, c'est assez intéressant parce que, ok, il y a le mot là, mais qu'est-ce que c'est la paracha d'Egla Arufa? C'est la fameuse paracha de la génisse dont on brise la nuque. Ça veut dire, si on trouve un cadavre On fait une enquête, on ne trouve pas le meurtrier. Alors, il y a une procédure qui se met en marche. C'est-à-dire, on va, avec un cordeau, on va prendre depuis la tête du mort, l'assassiné, là, on va mesurer la distance aux villes les plus proches qui ont, dans lesquelles il y a un tribunal. Une ville assez grande pour qu'il y ait un tribunal. Et la ville la plus proche, on va, avec ce cordeau quasiment, relier la ville avec ce mort, et on va faire comme si les gens de cette ville-là étaient responsables de ce mort. Et donc les anciens de la ville en question, ils vont venir, et on va prendre une génisse toute jeune, sur un endroit, et on va lui briser la nuque sur un morceau, sur un sol qui est absolument desséché, enfin un sol où rien ne pousse. Et les anciens de la ville viendront, et le tribunal viendra, et eux ils vont en quelque sorte se laver les mains de cette affaire-là, ils vont dire: nos mains n'ont pas versé, n'ont pas tué cette personne, n'ont pas versé ce sang. Alors, comme dit la Gemara, personne n'a jamais pensé que c'est ces vieillards-là qui avaient assassiné le bonhomme en question. Mais ce qu'ils disent, c'est ce bonhomme-là, nous pouvons dire, puisque nous sommes le tribunal de la ville en question, ce bonhomme-là, il n'est jamais venu dans notre ville pour. Il n'est pas entré dans la ville. Et on n'a pas essayé d'entrer dans la ville et on ne l'aurait pas accepté. Quand il est reparti, éventuellement, ce n'est pas non plus quelqu'un qui était dans la ville auquel on n'aurait pas donné une escorte. Parce qu'il y a une halakha que quand quelqu'un était dans une ville, les gens de la ville, quand lui partait ou allait à une autre ville, on devait lui donner une escorte. Pour pas qu'il se fasse attaquer par les bandits des grands chemins, il y avait une escorte. Et donc, ils disent: il n'y a pas eu de problème. Celui-là, on ne l'a jamais vu, ce bonhomme. Donc, il n'est pas venu dans la ville et on l'a refusé. Il n'était pas dans la ville et il est parti. Tous les cas de figure où on pourrait être responsable de la mort de quelqu'un. Et donc, avec ça, on a fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée, c'est comme ça. Si on regarde le contexte, là-bas, dans la Torah, on voit que pourquoi il faut faire cette procédure? Parce que le sang c'est un engrais. Bon, il y avait des pratiques idolâtres, en Roumanie ou autres endroits, où les femmes, elles allaient, quand elles avaient leurs règles, elles allaient dans les champs et elles laissaient couler le sang dans les champs. Comme une espèce de, c'est un engrais. Et donc ce sang qui a été versé, c'est donc un engrais pour la. Là où il a été tué. Et l'idée, c'est que ce qui va pousser à cet endroit-là, va pousser, c'est de la graine de violence en quelque sorte. Ce qui va pousser, c'est quelque chose qui contient la violence avec laquelle on a tué cette personne. Donc si on avait trouvé l'assassin, quand on juge on a jugé l'assassin, donc il a pris la violence en question et on a réglé le problème. Et donc, ce qu'on a fait avec ces anciens qui viennent dire que... Ça veut dire ils viennent dire, on est responsable, c'est nous qui répondons de cela, puisqu'on est la ville la plus proche, mais on n'est pas coupable. Mais ça suffit avec la procédure pour que la terre n'absorbe pas le sang, qu'on ne considère pas que la terre a absorbé ce sang de violence et donc va produire de la violence. Le blé qui va pousser à cet endroit-là... C'est du grain de violence, en quelque sorte. C'est ça qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'il y a cette procédure-là. Or, c'était ça qu'il était en train d'étudier, Yosef, avec son père. Et quand son père l'envoie, et que quelque part, c'est presque comme si on l'avait tué. On l'a tué, et on ne sait pas qui l'a tué. Donc c'est la procédure de Egla Arufa. Ce qu'il était en train d'étudier, c'est en fait la situation dans laquelle il s'est retrouvé quand son père l'a envoyé. Quelque part, bon, ils allaient le tuer. Et puis on n'aurait pas su que C'est assez étonnant parce que qu'est-ce qu'ils auraient fait si... Est-ce qu'ils auraient dit alors, en fait, quand ils l'ont jugé, condamné à mort, ils l'ont condamné à mort, okay, s'il avait condamné à mort et effectivement exécuté, qu'est-ce qu'ils auraient fait du corps? Ils auraient été obligés de l'enterrer. Mais est-ce qu'ils allaient dire à leur père qu'ils l'avaient condamné et enterré? Ou bien ils venaient quand même raconter la petite histoire qu'une bête sauvage, enfin, etc.
Ils auraient été obligés de dire.
Mais non, ils ne l'auraient probablement pas dit, parce que ils l'auraient peut-être dit que vous n'avez pas le droit, ou peut-être qu'ils n'auraient pas été d'accord.
Pour que le père fasse son deuil, ils auraient dû dire.
Mais il aurait fallu pour qu'il puisse faire son deuil. Et peut-être qu'il, de même qu'ils ne lui ont pas dit ici qu'il l'avait vendu, et qu'il ne fallait pas faire de deuil, mais qu'effectivement il n'allait peut-être jamais le revoir. A priori, il n'était pas parti pour le revoir. S'il était resté esclave, il n'était pas parti pour devenir roi là-bas, disons à vue humaine. Donc c'est ce qu'il lui a envoyé, c'est à la fois réminiscent de ce qu'ils étaient en train d'utiliser, et aussi, quelque part, comme s'il lui donnait à comprendre ce qui m'est arrivé, c'est un peu ça, quoi. C'est... Parce que personne n'a jamais dit à Yaakov ce qui s'est passé. Yosef n'a jamais raconté, les frères n'ont jamais raconté. Il n'y a pas de récit qui a été fait à Yaakov.
Mais par la suite, il le saura.
Pardon, et non.
Non, il le saura jamais.
Non, jamais.
Non, jusqu'à sa mort.
Personne ne va cafeter, et bon, Yosef ne va pas le dire. Et donc, mais lui, il n'a pas posé la question non plus, donc il a bien dû comprendre quelque chose. Et c'est encore une chose de le comprendre, c'est une chose de mettre des mots là-dessus. Peut-être qu'il n'aurait pas voulu. Personne ne voulait mettre des mots là-dessus. Alors, ce qui se passe, c'est que, entre-temps, donc, quand... Je vous donne tout ça la semaine prochaine, mais que... Quand ils vont revenir de l'enterrement de Yaakov, Yaakov va finir par mourir, alors ils vont dire à Yosef, ok, on était esclaves. T'as pas voulu, tu nous as rien fait parce que le père était vivant. Et maintenant qu'il est plus là, on est esclaves. Alors il va leur dire, pas du tout. C'est pas. Et ça, il leur avait déjà dit ici dans Vaïgash, ici, si vous prenez le verset. Chapitre 45. Et le verset 4. Yomer Yosef el Echav, il a dit, quand il s'est dévoilé, il a dit à ses frères, approchez-vous. Ils sont approchés. Il leur a dit, je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Alors, il a vu, Rachid dit, quand il leur a dit rapprochez-vous, il a vu qu'ils avaient un mouvement de recul, au contraire. Alors, il a pensé, maintenant mes frères, ils vont être humiliés. Alors, il leur a dit de façon sympa, rapprochez-vous. Et il leur a montré qu'il avait la mila. Après que pour authentifier en quelque sorte ce qu'il était en train de leur raconter. Et maintenant, verset 5, Al-Te'atzvu, ne soyez pas triste. Valichar ben-Echem ki mechartem oti. Vous m'avez vendu, mais bon. Inei, pourquoi, Hena, vous m'avez vendu là, ici en Égypte. Kile michia shlachani elokim. Hachem m'a envoyé ici comme nourricier. En avance. Je suis là, devant vous, pour vous permettre de vous nourrir. Zesh nataim araav, beker eva aret, ça fait déjà, on est à 2 ans de famine. Il y en a encore 5, pendant lesquels on ne pourra pas ni labourer, ni semer, mais il n'y a rien qui va. Et Elohim m'a envoyé pour vous permettre de survivre. Et dans le verset 8, il dit, et maintenant, lo atem shlachtem oti ena. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ki ha Elohim. C'est Elohim qui m'a envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Voyez, si menu le av le pharo le adon al kol beto. Le kol beto. Ou Moshe le kol eretz Mitzrayim. Je suis un père pour Parosa, je suis au-dessus, en vérité. Je suis le maître de toute sa maison. Je règne sur tout le pays d'Égypte. Dépêchez-vous, montez vers mon père, et vous lui direz la chose suivante. Ainsi parle ton fils Yosef, Samani Elohim la adon l'chol mitzray. Elohim a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Reda Elai al Tamot. Descends vers moi, ne tarde pas. Et tu, Miyashavta Beretz Goshen, Vaita Karov Elai, t'installeras dans le pays de Goshen. Le pays de Goshen, c'est le pays que Paro a donné à Sarah. Quand il avait kidnappé Sarah, quand ensuite il l'a redonné à Abraham, il lui a donné une province, c'est la province de Goshen. Cette province, en réalité, elle appartenait au Bnei Israël. Enfin, elle appartenait à Sarah et donc à Abraham, et donc c'est à nous. Je vais y aller moi-même. Tu te rapproches de moi, toi et tes fils, et tes petits-fils, tes troupeaux, tes petits et de gros bétail, tout ce que tu as. Et je te nourrirai là-bas, parce qu'il y a encore 5 années de famine. De peur que tu te dessèches complètement aussi, toi, ta maison, tout ce que tu as. Et il dit à ses frères, « Enechem ro'ot, vous voyez, et mon frère Binyamin le voit aussi, qui piam daber alachem, vous voyez bien que c'est ma bouche qui vous parle. » Pardon ?
C'est pas une forme de pardon qui est.
Non, c'est pas vous qui. Il dit pas, je vous pardonne pas. C'est pas vous qui avez fait le boulot. En fait, c'est tout ça. C'est vous qui m'avez vendu, mais Hachem a tiré les ficelles et je suis arrivé et il a fait en sorte que je devienne le roi, pratiquement, et le maître du pays et que je puisse vous nourrir comme je veux. Il n'y a pas de. Il dit, j'ai remarqué parce que avant Yom Kippour, les gens, ils se disent Mechila, Mechila. Je vous ai remarqué, bon, vous êtes déjà vous aussi. Quand tu écoutes les gens à ce moment-là, tu as l'impression que c'est une salutation. C'est pas qu'ils te demandent pardon. Mechila, ça veut dire pardon. Au lieu de dire Bouchabès, Raksamer, ils disent Mechila. Mais ça veut strictement rien dire. Personne ne te demande Mechila, je veux dire. Tu n'as pas l'impression que quelqu'un t'a demandé Mechila. En plus, on ne sait même pas pourquoi, donc. Et à part cela, en général, c'est difficile des fois d'avouer qu'on a été blessé. Des fois quelqu'un vient et te dit je m'excuse, etc. Alors on dit c'est rien. C'est pas rien du tout. Hein. Mais on peut aussi entendre dans le c'est rien, on peut entendre c'est rien, c'est-à-dire tes petites excuses à la manque là. Tu t'imagines qu'avec tout ce que tu m'as fait là, tu crois qu'en disant je m'excuse, je te prie de m'excuser, pas fait exprès, hein, tu crois qu'avec ça je te pardonne? C'est rien du tout. C'est rien. Mais le c'est rien, c'est pas que tu m'as rien fait. C'est que c'est rien ce que tu me dis là, c'est rien du tout. Bon, vous avez le choix, hein, quand vous dites c'est rien, vous pouvez choisir de dire, vous pouvez savoir, vous savez pas non plus ce que l'autre vous dit. Parce que c'est vrai que les plus forts, c'est les Anglais. Parce que les Anglais, ils vous tuent à moitié ou bien ils vous effleurent, ils vous disent sorry, désolé. Ils sont désolés pour n'importe quoi, pour la pire des vacheries. Et rien du tout, une petite bousculade de rien du tout, ils ne sont pas fautifs et tout. Toujours, sorry. Mais en français, on n'est pas beaucoup mieux, je veux dire. Bon, la plupart des gens, ils se trompent et ils disent « Je m'excuse ». Très bien, tu t'excuses, c'est parfait. Bon, est-ce que moi, je t'excuse? Donc, il leur dit « Vous allez monter vite chez mon père. » Et vous allez lui dire tout ce qui se passe. Il a ensuite embrassé chacun. Il a pleuré sur chacun. Ensuite, ils ont commencé à parler. La kol nishma bet paro. Et le bruit a été entendu dans le palais de paro. Baou achei Yosef. Les frères de Yosef sont venus. Tous les parents étaient très contents, et les serviteurs aussi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ce que ça pouvait leur faire, je ne sais pas. Franchement dit, la Torah, ils étaient contents, et Vaïtav Bene Paro, un pitom. Franchement dit, je ne vais pas regarder, j'ai l'impression que c'est incompréhensible, c'est quand même la Torah qui dit que.
Alors, je crois qu'il dit qu'en fait, Pharaon était content en fait que la personne qui avait nommé à la tête de son pays n'était pas un simple esclave, mais quelqu'un
de. Ça, on peut dire. Ouais. Mais du coup, en vérité, c'est pas du tout évident ça, parce que une des raisons qui faisait que le conseil de Yosef, qui disait nomme quelqu'un, était un conseil qui suggérait de le nommer lui-même, parce que en tant qu'esclave, imaginez que Paro ait nommé n'importe quel noble égyptien responsable de collecter tout le blé, etc. Le type, une fois qu'il aurait mis tout le blé en silo, il aurait dit à Paro, tu peux aller travailler ailleurs, hein. Il lui avait tout le pouvoir. Il avait toute l'économie de Mais lui, comme il était Yosef, c'était un esclave. Alors il n'y avait aucun risque. Il présentait aucun risque pour Paro. Donc c'était super. Tu le nommes lui comme intendant. Il peut avoir autant de pouvoir que tu veux. Il ne va jamais te contester parce qu'il n'est même pas vraiment complètement libre. Et il n'est pas égyptien. Donc maintenant, si on dit que la famille, c'est des nobles, etc. Ou alors, bon, il ne trouve pas égyptien, mais c'est un noble. Alors, est-ce qu'il pourrait pas dominer Paro? De toute manière, vous savez bien que Yosef, il avait une barre sur Paro. Ils se tenaient tous les deux par la barbichette. C'est vrai que Paro était l'empereur, mais vous savez bien que quand Yaakov a senti qu'il allait mourir, il a obligé Yosef à jurer qu'il allait l'enterrer en Eretz Israël. Il a dit, mets ta main sur ma cuisse, exactement comme Abraham a fait avec Eliezer, et jure. Et tout le monde demande pourquoi Yaakov il a fait jurer son fils, quoi, il n'avait pas confiance. Et alors, le Midrash, il va expliquer les choses. Quand Yosef, il a dit à Paro, tu sais, je vais aller enterrer mon père en Eretz Israël. Enfin, on va dire, mais pas question. Tu vas pas sortir d'Égypte. Il a tous les codes de l'Égypte aujourd'hui. Imaginez-vous, le type, il sort, il a toute l'Égypte dans la main. Il prend n'importe quel petit groupe de gens, ils viennent, ils s'installent, et puis ils chassent les Égyptiens on vous donne pas à manger, c'est tout, terminé. Vous pouvez crever sur place. Donc il lui dit, mais tu ça va pas, non? Tu vas pas sortir avec, Yosef, il lui a dit, mais mon père m'a fait jurer. Alors Paro, il lui a dit, bon, ben, je te libère de tous les serments. Alors Yosef, il dit, ah d'accord, donc tu m'as libéré aussi du serment que tu m'as obligé à te faire. Il y avait une règle en Égypte, que pour être Paro, pour devenir pharaon, il fallait connaître les langues. Et donc, c'est marqué que quand Yosef, il a été nommé, enfin, pour qu'il soit nommé, il fallait aussi qu'il apprenne. C'est marqué qu'il y a Gabriel qui est venu lui enseigner toutes les langues la veille de son examen. Quoi. Quand il a parlé avec. Alors l'examen, c'est avec Paro. Il parlait toutes les langues. Tout à coup, il a parlé hébreu. Et Paro, il ne savait pas. Donc en vérité, ça montrait que Paro, c'était un usurpateur. Il suffit d'être publié. Il ne connaît pas l'hébreu, il ne connaît pas toutes les langues, donc il n'a pas le droit d'être le pharaon. Il y aurait sûrement une bonne âme parmi les Égyptiens qui aurait dit « Moi, je connais toutes les langues, je peux devenir pharaon. » Donc, il a fait jurer à Yosef qu'il ne dévoilerait pas qu'il ne sait pas. Donc, il le tenait. Donc, quand il a dit « J'annule tous les serments, là, je peux maintenant raconter à tout le monde. » Non, bon, tu peux aller enterrer ton père. Donc, cette histoire, Paro, il était très... Finalement, Yosef, c'était extraordinaire. Il lui a expliqué son rêve exactement comme il le voulait. Il l'a installé là où il voulait. Il a réglé les problèmes. Il a à manger. Et puis, en plus, il a tous les pouvoirs, Paro, maintenant, parce que ça a ramassé toute la... Je vous ai dit, il a ramassé toutes les richesses égyptiennes. Tout ça, c'est dans la main de Paro, ce qui est inespéré, quoi. Donc, quand on dit qu'ils sont... Vous avez raison, c'est Arscroll qui dit comme ça. Ils ont sûrement raison que... Je ne sais pas, qu'est-ce qui le dit, là? Ils citent quelqu'un, eux?
Sforno.
Sforno, oula. Sforno, c'est un riche homme, c'est important. Médecin italien. Tous les deux, le Ramban aussi.
Ramban dit que... On savait maintenant que Joseph était ici d'une illustre famille.
Oui, non, bon, c'est sûr que c'est très bien. Moi, en passant, je dis que c'est plus tout à fait évident. Mm-hmm. Mais bon, peut-être que les choses sont tellement installées déjà qu'il n'y a plus de risque que Joseph essaye de prendre le pouvoir. Mm-hmm. Finalement, il n'était quand même pas égyptien. Donc, il... Alors, Paro, il dit à Yosef, tu peux dire à tes frères, voilà, installez-vous où vous voulez, et allez peut-être dans le pays de Canaan. Je pense que c'est Yosef qui lui a soufflé de les inviter à aller en Canaan. Et ramenez votre père, et je vous donnerai tout ce qu'il y a de bien en Égypte, et vous mangerez la graisse du pays, en fait. Vous allez manger... Vous allez profiter au maximum du pays. Dans le passage 21, c'est marqué, ils ont fait ce qu'on leur a dit. Vaïten laem Yosef agalot. Yosef leur a donné des wagons, des chariots. Agalot, avec ce que je vous ai parlé sur la Egla Arufa. On dit Alpi Paro, c'est Paro qui leur a dit, mais on a l'impression que Yosef il souffle à Paro ce qu'il faut leur dire, parce que. Il y a des choses qui sont étonnantes un peu. Parce que c'est marqué, ok, qu'il leur donne les chariots pour que son père puisse revenir, amener ses affaires dans les chariots, qu'il n'ait pas besoin de, je sais pas, de le faire à Dodan ou. Mais Vaïten Lahem Tzedaladarer. Il lui a donné Tzedaladarer. C'est ça le marqué dans la Torah, ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné des vivres pour le chemin. Eh bien, il manquait quoi? Ils allaient jeûner le long du chemin? Évidemment qu'il leur a donné, mais pourquoi c'est écrit dans la Torah? Ils disent quelque chose, là, chez Arscroll? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de donner des...
Le guide de Arscroll, il ne parle pas de ce passage.
Non, mais non. Non, le rabbin Mouk non plus, il n'en parle pas.
Ça, c'est vrai, c'est...
Donc ils lui ont raconté toute l'histoire. Il avait du mal à le croire d'ailleurs. J'ai pas de mal à comprendre. Alors, Yaakov, il a eu une vision d'Hachem qui lui a dit, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Voilà. Donc il va descendre. Yaakov, il envoie Yehuda en avance auprès de Yosef à Goshen pour Rachid Electric, c'est ouvrir la yeshiva, quoi. Un endroit pour étudier. Donc Yosef est allé à la rencontre. Il a scellé ses chevaux, enfin il a préparé son char, et il est allé à la rencontre de son père. Alors ensuite, il va donner des directives à ses frères. Quand vous serez devant Paro, dites que vous êtes des bergers, comme ça ils vous ficheront la paix, il vous enverra à Goshen, parce qu'eux, ils ne veulent pas voir les animaux, etc. Ces animaux ne leur plaisent pas. Donc, dites que vous êtes spécialisé là-dedans et comme ça vous serez à l'écart finalement. Et tous les ennuis des Bnei Israël par la suite vont venir de ce que les Bnei Israël ne sont pas restés à Goshen justement. Il y en avait partout. Ok, on s'arrête là. Oui, alors. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Pardon ? Très bien, désolé. Bon, j'ai pas bougé le. Ok, good Chavez. Un peu tôt, mais bon.
Bonne soirée.
Bonne soirée.